France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux fractures entre Paris et les territoires d'outre-mer après la Nouvelle-Calédonie où le dialogue est pour le moins difficile, après Mayotte et son régime d'exception, après les Antilles et le poison de la vie chère, la Guyane et l'éducation publique en souffrance.
Dans les différents collèges et lycées de Guyane, il manque beaucoup de professeurs. Il n'y aura pas un professeur devant chaque classe comme cela a été annoncé. Ça, c'est un vœu pieux d'une manière générale. Et en Guyane, c'est encore aggravé. Il y a des disciplines qui sont en très forte tension et dans lesquelles il manque de nombreux collègues.
Cela fait plusieurs années déjà que cette école a énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des inondations récurrentes à chaque saison des pluies. Des problèmes d'infiltration dans les circuits électriques. Aujourd'hui, il n'y avait pas de courant. Nos enfants, ils sont restés dehors. Ils n'arrivent pas à travailler.
On peut dire que l'État a joué le jeu, puisque c'est quand même deux groupes scolaires qui sont sortis d'Angleterre grâce à ces accords de Guyane. Habituellement, il fallait donc avoir les accords du rectorat, de l'État et autres. Mais par ce biais, effectivement, nous avons pu avoir les financements assez rapidement, très rapidement même, pour que nous puissions garder notre rythme de construction, c'est-à-dire un groupe scolaire tous les 18 mois.
Un groupe scolaire tous les 18 mois en Guyane a promis l'État français en versant une somme importante pour construire de quoi accueillir tous les enfants de la collectivité à Saint-Georges de l'Oyapock, ville de l'Est de la Guyane sur le fleuve du même nom. Florence Aubenas racontait récemment dans le magazine Du Monde l'ouverture d'une nouvelle cité scolaire avec internat public et lycée, une révolution à Saint-Georges. Certains en ville n'y croyaient plus, écrit-elle, annoncé depuis des lustres. Le chantier s'est éternisé pendant 6 ans, les ouvriers peinent dans une boue rouge qui leur arrivait aux cuisses, cernée par la forêt et les marais. Au 19e siècle, aucun bagnard n'avait survécu aux fièvres quand ils avaient été envoyés en colonie bâtir la ville. Dans ce tout nouveau bâtiment qui accueille des enfants venus de loin, vivant sur le fleuve et dans les forêts, la proviseure témoigne d'une certaine anxiété. Auprès de la journaliste, il ne faudrait pas qu'on ait changé de structure pour le même résultat. On doit se demander, est-ce que la République va faire mieux? En réalité, les enseignants en Guyane estiment que l'effort de construction n'est pas suffisant. Ils s'étaient d'ailleurs mis en grève au mois de mars à l'appel des organisations syndicales pour demander un plan de rattrapage d'urgence, à commencer par des embauches massives dans tous les corps de métier. Les enjeux sont nombreux, géographiques, démographiques, linguistiques. 70% des enfants présents en Guyane n'ont pas le français pour langue maternelle, d'après un rapport de l'UNESCO. À Florence Aubenas, toujours, un enseignant en français raconte le jour où il a déclamé quelques pages de la comtesse de Ségur en début d'année. Les élèves écoutaient poliment, mais c'est comme si je lisais du sanskrit. Or, moi, j'ai été formée à enseigner la littérature, pas à apprendre à lire. Quelles sont les carences du système éducatif français en Guyane et pourquoi l'État peine-t-il à faire fonctionner ce service public? Bonjour Sylvia Lopez da Silva Macedo.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en anthropologie sociale et ethnologie à l'EHESS, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'UNSPE, de l'Université Paris-Est-Créteil. Vous avez co-dirigé un rapport pour l'UNICEF sur le droit à l'éducation en Guyane, que vous connaissez bien pour d'ailleurs y avoir longtemps travaillé, vous nous en parlerez. Bonjour Patrick Blancodini.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes géographe, professeur de géopolitique en classe préparatoire à Lyon. Vous connaissez très très bien la Guyane aussi, au sujet de laquelle vous écrivez souvent pour la revue Géoconfluence. Alors on entendait Patrick Blancodini, l'affaire de la construction d'établissements scolaires un peu dans toute la Guyane, avec cette promesse d'avoir un groupe scolaire qui émerge tous les 18 mois en Guyane, qui sortent de terre tous les ans et demi. Combien d'établissements scolaires sont en train d'être construits à votre connaissance, ou alors si on n'a pas les chiffres exacts, ou au moins est-ce qu'on sait qu'ils sont en construction?
Alors, il y a effectivement beaucoup d'établissements scolaires qui sont construits. Si on prend le passé, les dernières années, par exemple, entre 2013 et 2022, on a un nombre d'élèves en Guyane qui a augmenté de 16%, ce qui est énorme. Et donc, pour répondre à cette croissance, 29 collèges, écoles, collèges ou lycées ont été construits pour le premier et le second degré.
Collège-lycée, parce qu'on rappelle, Patrick Blancodini, que la collectivité unique de Guyane, elle, c'est une fusion du département et de la région, donc elle s'occupe principalement des collèges et des lycées.
Tout à fait. Elle a donc les prérogatives à la fois du département qui s'occupe traditionnellement des collèges et à la fois de la région qui s'occupe des lycées. Et donc la dépense pour l'éducation dans le département a cru de 45% dans cette période. C'est un effort qui a été important, même si manifestement ça ne suffit pas. Et puis même le nombre d'enseignants a augmenté de 40% en 9 ans. C'est beaucoup. Mais ça répond pas aux besoins.
Ça répond pas aux besoins qui sont, excusez-moi Patrick Blancodini, les besoins en l'occurrence de répondre à une demande qui est celle des effectifs scolaires qui ont beaucoup augmenté. Peut-être d'abord, comment sont identifiés les besoins pour donner à voir la carte de la Guyane? Il y a au nord le littoral sur l'océan Atlantique et c'est là que se concentrent les infrastructures, les grandes villes dont la capitale Cayenne. À l'ouest, la frontière avec le Suriname, frontière qui longe le fleuve Maroni, et à l'est, la frontière avec le Brésil le long de l'Oyapock, et au centre des 34 000 à peu près kilomètres carrés d'Amazonie. Voilà, des zones beaucoup plus qui accueillent beaucoup moins d'établissements. Oui.
Tout à fait. Alors, la région de Guyane qui montre le plus de besoins, parce que la population y explose, c'est l'Ouest. C'est l'Ouest autour de Saint-Laurent-du-Maroni, qui effectivement est la deuxième commune de Guyane après Cayenne. Il y a à peu près 50 000 habitants. Et le nombre d'élèves, rien que pour le second degré, augmente de 4 à 5 % par an. Or, pour former des professeurs, pour les recruter, il faut du temps. Et pour construire les établissements, encore plus.
Oui, les délais de construction sont plus longs qu'ailleurs. Je voudrais juste qu'on entende Sylvia Macedo sur cette question. On parle parfois de taux de remplissage qui atteignent 140, 150% dans certains établissements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines communes qui n'ont pas, qui une fois leur liste officielle, le quota atteint, continuent à accepter des élèves de façon un petit peu plus officieuse. On se débrouille parce qu'il faut bien accueillir des enfants.
Tout à fait. En Guyane, pas partout, mais plusieurs établissements, ils vont augmenter les nombres parce que il n'y a pas suffisamment de place. Et donc, il y a souvent cette logique où on essaye de combler les déficits existants. Et on va se débrouiller, souvent.
Des bungalows aussi, parfois, qui sont mis en place de façon un peu urgente, mais qui finissent par être pérennes pour enseigner dans les bungalows.
Justement, parfois, on peut utiliser, il y a eu même une mode d'utiliser les containers pour les transformer en salle des classes ou provisoires ou qui deviennent parfois permanentes. Mais c'est des façons de combler un besoin dû justement à cette croissance démographique très très importante en Guyane.
Patrick Blancodini, les classes sont surchargées. Alors, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais par exemple, dans les trois lycées de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, on le dit souvent. C'est un problème général.
C'est un problème pour la qualité de l'enseignement. Ainsi, à Saint-Laurent, l'État et la collectivité territoriale de Guyane financent actuellement la construction d'un collège pour 600 élèves pour un coût de 22 millions d'euros, ce qui portera le nombre de collèges à 8, et un lycée de 1000 places pour 52 millions d'euros, dont la mise en service est prévue en septembre 2025, à la prochaine rentrée, et ça va porter le nombre de lycées à 4 au total. Et effectivement, c'est des salles supplémentaires, c'est des bungalows. Alors le bungalow, c'est vraiment pas l'idéal, surtout quand il n'y a pas de clim, quoi. Et puis dans le reste, un peu plus au sud, à Maripasoula,
Donc on est là toujours le long du fleuve, hein, on est toujours là le long du fleuve Maroni.
Tout à fait, dans le sud-ouest. Maripasoula, c'est une commune particulière, c'est une commune très isolée, on peut y aller qu'en pirogue ou en avion. La commune connaît une situation démographique un peu particulière, parce que c'est une commune qui perd plutôt des habitants. Bon. Alors, il y a un collège qui a ouvert en 1988, et puis il y a un projet de lycée qui a vu le jour en 2019, et qui a été poussé d'ailleurs par la collectivité territoriale de Guyane, avec un coût de 40 millions. Alors ça, c'était 40 millions d'euros, c'était le prévisionnel, et en réalité, ça sera sans doute 60 millions d'euros au final, parce que le lycée devait ouvrir en 2022, et puis en fait, il n'est toujours pas ouvert et il sera inauguré sans doute à la rentrée 2025.
Il faut dire que les délais de construction sont plus élevés qu'ailleurs aussi pour les conditions parfois de chantier que décrit Florence Aubenas dans son article dont j'ai lu un extrait, mais c'est parfois très très compliqué dans des conditions climatiques aussi parfois difficiles. Le fait aussi qu'une une plateforme d'appui opérationnel qui devait soutenir les collectivités et les aider à mettre en place des projet d'établissement et de construction n'est en fait opérationnel que depuis 2020, donc 3 ans après les accords de Guyane. C'est ça tout l'argent dont on parle depuis le début de ces établissements qui sortent de terre. Patrick Blancodini, ce sont les accords de Guyane qui l'ont permis, qui, après cette grande mobilisation en 2017 en Guyane, avait poussé l'État français à dire on va financer une partie des projets.
Oui, alors il y avait, après ces grandes manifestations, effectivement, il y a eu beaucoup de promesses de l'État. Puis comme souvent, les promesses sont pas toujours tenues, donc l'argent n'est pas toujours arrivé au bon moment et suffisamment. Hein. Mais enfin, il y a quand même une volonté, il y a quand même des efforts de la part de l'État pour répondre en partie aux problématiques de l'éducation. Par exemple, en Guyane, il y a une problématique autour des services de restauration dans les établissements. Il n'y a pas tant de cantines, en gros, scolaires que ça. Et donc, dans ce nouveau lycée qui est construit à Maripasoula, il est prévu de faire un service de restauration. Donc tout ça, ça coûte évidemment de l'argent, ça coûte plus cher. Et pour fournir au moins une demi-pension à 80% des élèves. Alors, c'est dommage que ce ne soit pas la totalité, mais enfin, mais ça implique quelque chose, ça, quand même. C'est que quand on a des élèves qui restent toute la journée sans manger, parce que y a pas de cantine, et puis qui ne peuvent pas rentrer forcément chez eux, les apprentissages, ils sont pas de très haut niveau.
Sylvia Macedo, c'est Sylvia Macedo qui est avec moi en studio, n'a pas encore beaucoup eu la parole. C'est une question, la cantine, l'accès à la cantine que vous évoquez dans le rapport pour l'UNESCO. 14% seulement de collégiens bénéficient d'une cantine en Guyane. Déjà, comment se fait-il que ce ne soit pas un service assuré? D'où vient la défaillance?
Je pense qu'il y a plusieurs enjeux, un enjeu historique, un enjeu politique, un enjeu de moyens. Il faut à chaque fois penser aussi, tant dans la construction que dans le service, la carte géographique de la Guyane, la concentration dans des villes comme Cayenne et Saint-Laurent. Et donc il y a des inégalités territoriales assez importantes, donc toutes les communes sur les fleuves ou rurales. Et donc les services depuis les démarrages de l'éducation en Guyane, les écoles et les collèges et lycées ne fournissaient pas les services de restauration.
De restauration depuis le début,
c'est quelque chose qui et donc il y a tout un système un peu parallèle qui fonctionne avec, et c'est ce qu'on appelle des tatis. Ce sont des femmes souvent qui vont aller chercher les enfants ou les collégiens et qui fournissent ces services. Elles vont chercher les écoles, les élèves, pour les restaurer chez elles. Et ensuite, revenir à l'école et au collège et lycée.
Des écoles dont vous rappeliez qu'elles sont relativement mal réparties sur le territoire, d'où la création récemment de 2 premières classes dites de proximité, par exemple dans la commune d'Apatou, le long du fleuve Maroni, au sud de Saint-Laurent-du-Maroni.
C'est un soulagement pour nous que nos enfants soient scolarisés ici. Le déplacement était difficile car on prenait la pirogue tous les jours à 5 heures du matin. Donc pour nous, les maires, c'est une bonne chose que l'école soit enfin ici. Le maire nous a bien aidés parce que la classe appartient aux villageois et c'est une bonne chose.
Le bateau, c'est risqué pour les enfants de 2 ans à 3 ans pour pouvoir aller à l'école. Donc une école à proximité, c'est mieux.
Et oui, un petit enfant, un tout petit enfant sur un bateau, pour parfois des heures de 3 heures de trajet pour aller à l'école. Aller à l'école en pirogue, ça reste tout à fait courant, Sylvia Macedo.
Tout à fait. La commune sur les fleuves, comme on appelle, ou les communes isolées, les élèves vont et viennent à l'école en pirogue. Donc, ce n'est pas surprenant de voir des pirogues arriver tôt le matin, à 7 heures du matin, avec tous les écoliers et collégiens qui viennent au bourg ou au hameau central pour étudier.
Donc ils ont pris le bateau à 4h, 5h parfois.
Parfois ils prennent à 5h, 6h, ils s'élèvent très très tôt, souvent parfois ils n'ont pas le temps de prendre un petit déjeuner et donc ils vont à l'école.
Et ils n'ont pas de cantine.
Ils n'ont pas mangé. Mmh. Et donc la question de la cantine en plus, l'alimentation scolaire pose encore plus de problèmes dans ces cas-là.
Avec toutes les questions que pose aussi le transport en pirogue, ça dépend du niveau du fleuve, j'imagine Patrick Blancodini, qu'il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte. Est-ce que les transports sont pris en charge et par qui pour les enfants? La question du transport public.
Alors oui, les transports scolaires ne sont pas toujours gratuits en Guyane. Hein. Donc effectivement, la pirogue, c'est, comme vous l'avez dit, c'est assez dangereux. Enfin, ça dépend du niveau des eaux. Hein. Donc c'est un problème de débit un peu du fleuve. Et puis il y a le bus aussi qui est souvent emprunté. Bon, sachant que la route en Guyane est assez accidentogène. Hein, bon, et puis il y a des élèves qui font du stop hein, pour aller dans leurs écoles, pour rejoindre leurs écoles. C'est fréquent quand on se promène en Guyane. D'avoir de jeunes autostoppeurs qui vont dans leurs établissements. Alors tout ça, au fond, explique en partie l'absentéisme et le décrochage scolaire qui est important en Guyane. Hein. Et ça, c'est un vrai problème du département.
15% des jeunes de 15-17 ans sont déscolarisés contre 5% dans l'Hexagone. Donc il y a plein,
oui, c'est ça.
Plusieurs facteurs qu'on va d'ailleurs avoir le temps de dérouler. Ces établissements, pour en finir avec les conditions vraiment d'enseignement, d'éducation, on parlera de l'enseignement et des profs, mais les établissements sont aussi pour beaucoup vétustes. Un des témoignages qu'on a entendu en début d'émission, c'était une mère qui disait que ses enfants faisaient cours parfois dehors, que l'électricité était régulièrement coupée. Dans le village de Providence, qui est à 3 heures de pirogue du bourg d'Apatou, une école a été créée avec 6 classes qui a été fermée pendant 21 semaines. Même parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et la question de la sécurité aussi des enfants. Les parents se disent régulièrement inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Sylvia Macedo, quels sont les risques les plus courants pour ces enfants?
Bon, la question du transport, un transport en pirogue, il y a des conditions du fleuve qui vont permettre ou pas cette circulation. Après, il y a les risques aussi. Bon, il y a des bancs de sable, des rochers, etc. Et donc, si ce n'est pas des piroguiers confirmés, on peut avoir des vrais accidents. Et en plus, dû au fait qu'on est aussi face à un public scolaire, et en particulier des collégiens qui peuvent, par exemple, décider de sécher l'école. Donc, ils vont en pirogue, mais ensuite, les trajets, parfois, entre la pirogue, débarcadère et l'établissement scolaire, peut prêter à des cols boursonnières pour certains élèves.
Qui filent douce.
Et les parents s'inquiètent de ça aussi.
Il y a les agressions, les violences qui ont été recensées aussi dernièrement. Alors, ça date de 2020, mais un élève de 3e avait été poignardé par un autre collégien dans un collège de Saint-Laurent-du-Maroni. Les enseignants racontent régulièrement des batailles de cailloux systématiques qu'ils n'arrivent pas à stopper, du trafic de drogue, des membres de gangs qui entrent dans les établissements. Donc ça, c'est le tableau général des conditions dans lesquelles certains établissements peuvent réussissent bon an mal an à enseigner. Alors ces nouveaux établissements, certes, qui sortent de terre, c'est une chose, Patrick Blancodini, mais qui pour pour y enseigner. Qui sont aujourd'hui, combien de postes d'enseignants sont vacants, puisque c'est une des choses que les enseignants rappellent très régulièrement dans toutes les manifestations et lors de la dernière grève en mars dernier.
Oui, alors effectivement, malgré les efforts consentis à la fois par l'Académie, le rectorat et l'État, la Guyane manque d'enseignants. Et pourtant, il y a quand même près de 9 800 personnels enseignants en Guyane, dont un tiers de contractuels. Alors ça, le problème des contractuels, c'est un mot un peu péjoratif.
Oui, ils sont quand même là pour pallier une déficience et on est bien content de les trouver.
Absolument. Et puis attention, c'est pas parce qu'on est contractuel qu'on est moins bon que les autres.
Mais la formation on est minime en effet par rapport aux autres.
Voilà, c'est ça. On est moins formé. Et donc c'est souvent des gens de très grande qualité, de bonne volonté, mais ils se forment sur le tas. Et c'est difficile. Et donc pour la pédagogie, la didactique, eh bien il peut y avoir un petit peu de retard ou de difficulté. Bon, enfin il y a un manque quand même de professeurs qui est flagrant et qui reste un des problèmes majeurs de la Guyane.
Bon. Un manque d'enseignants titulaires, surtout à l'ouest et le long des fleuves. Beaucoup ne souhaitent pas y aller. Les jeunes enseignants qui parfois refusent les postes attribués par le rectorat. Et il est déjà arrivé qu'il y ait des rentrées où des enseignants ne se présentent pas. À la rentrée 2019 dans la commune du Grand Santi à l'ouest, le long du fleuve Maroni, toujours 6 professeurs sur 7 manquaient à l'appel dans 2 écoles primaires. Sylvia Lopez da Silva Macedo, il se trouve que vous avez été enseignante chercheuse à l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation en Guyane, qui forme les professeurs des écoles pendant 4 ans. Cette question des contractuels, un tiers d'enseignants contractuels, quelle formation minimale est-ce qu'ils reçoivent au départ pour s'adapter non seulement à ce métier d'enseignant, mais surtout au contexte dans lequel ils sont affectés, puisqu'on entend bien que selon où on est affecté, les contextes sont très très différents en Guyane.
Bon, déjà, les enseignants contractuels, parfois, ils reçoivent une formation, si c'est possible, une semaine avant d'entrer en classe. Parfois, les manques sont tellement criants qu'ils vont démarrer leurs activités pédagogiques et être formés d'une part sur l'État et d'autre part par des formations continues sur place quand on arrive à déployer des formateurs dans les établissements. Ça c'est un problème très important parce que déjà on a un problème général et dans certaines académies, en particulier en Guyane, d'attractivité du métier. Donc devenir enseignant c'est déjà un peu en tension un peu partout et en Guyane en particulier. Donc on a cette un dépit de politique d'attractivité, des bonus, etc. Et des politiques continuent à être développées par l'État pour attirer une population et la formation également, la formation initiale et continue. Mais pour les cas des contractuels en particulier, parfois ils vont s'y voir envoyer sous les écoles, soit dans les villes, soit ailleurs, sans une formation au préalable.
Et je crois qu'il existe, Patrick Blancodini, un concours exceptionnel, un CAPES interne à affection locale qui s'adresse en particulier à des contractuels en Guyane.
C'est ça, il s'agit en fait de fixer les contractuels et puis de leur fournir une formation. Et ainsi, avec la réussite de ce CAPES, ils peuvent devenir fonctionnaires titulaires. C'est un CAPES qu'on trouve également à Mayotte. Bon, alors en termes de postes pourvus, c'est pas très nombreux. Par exemple, en histoire-géographie, l'an dernier, il y avait 8 postes. 7 candidats ont proposé la première épreuve, qui est une sorte de dossier, et 4 ont été pris. Donc, vous voyez, ça reste quand même très très modeste. Mais enfin, c'est un moyen de pallier la faiblesse du vivier en fait en Guyane, hein. Ne serait-ce que parce que en Guyane une classe d'âge, une génération a le bac à 50%, hein, c'est quand même en 45-50%, c'est quand même beaucoup moins que dans l'Hexagone où on est à 80%. Donc moins d'élèves bacheliers, c'est moins d'élèves qui vont pouvoir suivre une formation dans le supérieur et globalement donc moins d'élèves qui pourront s'orienter vers les métiers d'enseignement.
Or, avoir le bac, bien sûr, ça reste le Graal pour la plupart de ces élèves et de leurs familles, et y compris les familles amérindiennes, puisque les enfants des populations autochtones ont été intégrés à la fin des années 60 dans le système éducatif. Cette mère amérindienne de Kamopi a vu son fils partir au lycée à Karoo pour avoir le bac.
C'est pas facile pour moi en tant que mère, parce que je m'inquiète beaucoup quand il est là-bas. Est-ce que... À quelle heure il rentre, à l'heure qu'il va sortir, à quelle heure il va, est-ce qu'il mange bien? Parce que dernièrement, il ne mangeait pas bien dans la famille où il était. Et pour ne pas m'inquiéter, il ne m'avait rien dit. Et après, quand il m'a appelé en pleurs, en disant qu'il ne pouvait plus, qu'il voulait retourner sur Kamopi, je dis non, tu ne veux pas, je vais essayer de trouver une solution. Bon, mais comme je suis une mère célibataire, et avec tout ce qu'on a passé, je veux qu'il arrive à avoir son bac. S'il arrive, ce sera un des premiers de la famille à avoir son bac. Sans cesse, je suis inquiète pour lui. Et ça m'inquiète de plus encore qu'il soit inquiet avec moi. De me voir seule ici, il s'inquiète.
Une maman amérindienne inquiète pour son fils, lui-même inquiet. C'est la question des enfants amérindiens qui intègrent le système scolaire en Guyane. Elle est importante à plusieurs titres. Sylvia Macedo, et vous accordez à cette question une large place dans votre rapport pour l'UNESCO, ne serait-ce que parce que, d'abord, ils sont très tôt coupés de leur famille. Par définition, ce sont ceux qui sont les plus éloignés des établissements scolaires.
Après, il y a plusieurs cas de figure, hein, des populations différentes, donc avec des situations assez différentes. Pour si on reste à Kamopi, donc de la région sud de Guyane, avec deux populations majoritairement établies, on a encore la possibilité de réaliser les scolarités élémentaires et les collèges sur place pour ceux qui habitent dans le bourg. Mais les populations, traditionnellement, elles sont dispersées au long du fleuve. Et donc, il y a toujours un déplacement à faire, même pour ceux qui vont aller au collège à Kamopi même. Et une fois les collèges finis, il faut nécessairement partir.
Et où sont les lycées alors ?
Alors, les lycées actuellement, il y a un lycée, la cité scolaire qui a été ouverte, qui vient d'être ouverte à Saint-Georges-de-l'Oyapock.
Dont parle Florence Aubenas dans son article. C'est une cité scolaire, comme elle dit, c'est surtout un lycée professionnel.
C'est surtout un lycée professionnel, et il faut quand même, si tout va bien et s'il y a de l'eau sur le fleuve, voyager pendant 3h30, 4h pour s'y établir à Saint-Georges-de-l'Oyapock et y aller à l'école. Et donc cette cité scolaire qui a prévu, justement, pour pallier tous les problèmes existants pour les scolarités, des populations éloignées des établissements. Donc, ils restent sur place, sur des internats. Il y aura une cantine scolaire avec majoritairement des formations bac pro.
Ça rappelle aussi la question de ce qu'ils apprennent, ces élèves qui sont coupés de leur famille, qui vont, pour certains, vous l'avez bien rappelé, rejoindre en ville des écoles où l'on enseigne par ailleurs en français. Et dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, bon, ça se passe sur le continent africain, c'est au Sénégal, les parents hésitent à mettre leur enfant à l'école étrangère, l'école des colons, en disant ce qu'il va apprendre vaut-il ce qu'il va oublier. Est-ce que les programmes dans les écoles en Guyane, Patrick Blancodini, ont été adaptés au contexte local, ou est-ce qu'au contraire, au nom de la République, on a cherché à ne pas le faire? Est-ce que les programmes scolaires sont en tout point identiques à ceux de l'Hexagone?
Alors, les programmes de l'école élémentaire, par exemple, s'adaptent quand même de façon plus aisée aux au local, hein, et permettent d'aborder des questions sur l'histoire locale, sur la géographie. Bon, tout en gardant quand même une trame nationale. C'est plus délicat pour les programmes du secondaire et notamment pour le lycée en fait. Hein. Bon, après c'est une ouverture. C'est une ouverture au monde aussi qui est nécessaire à tout élève en réalité. Bon, mais c'est vrai qu'il y a un décalage qui demeure et qui peut être un problème. Au fond, les enseignants, ils se sentent un peu en décalage culturel vis-à-vis de leurs élèves et ça crée parfois des malentendus ou des moments où il y a des difficultés pour les élèves à comprendre ce qui est enseigné. Bon, et puis comme vous l'avez rappelé quand même, la barrière de la langue est fondamentale. Hein. Avec ces 70% d'enfants qui n'ont pas le français comme langue maternelle, le programme, il passe pas quoi qu'il arrive. Hein.
Et là-dessus, est-ce que les enseignants sont tous nécessairement francophones, Sylvia Macedo? Parce que si les élèves sont loin de l'être tous, il faut réussir à trouver un langage commun, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour les enseignants?
Alors, la majorité des enseignants sont tous francophones. Et l'adaptation des programmes, elle est très partielle, même s'il y a des démarches et parfois des positions politiques pour les faire. Elle est encore très, très liée à un peu le bon vouloir des enseignants, même sur place. Mmh. Et donc, on a des adaptations, mais parfois, je dirais, à la marge. Les enseignants, ils sont tous francophones. Compte tenu de ces faibles nombres de bacheliers, on n'arrive pas encore à beaucoup recruter dans toutes les langues parlées en Guyane. Elles sont quand même au moins une trentaine.
Portugais, créole haïtien, langue amérindienne des fleuves.
Voilà, une trentaine. Les langues langues, les langues d'immigration. Et donc, c'est des populations souvent plurilingues, une bonne partie dont le français n'est pas la première langue de socialisation. Mais l'école est faite en français, même si il y a quand même certaines. Il y a l'école bilingue créole guyanais français. Parce que le créole guyanais est une langue régionale et donc il y a une politique dédiée. Pour les autres langues, il y a des expérimentations pour certaines langues amérindiennes, mais c'est encore pas tout à fait officiel, pas tout à fait à la même place.
Et on sollicite des intermédiaires, parfois des locuteurs qui viennent assister aux cours et servir si besoin d'intermédiaires, de traducteurs. Quel est le statut de ces personnes et est-ce qu'elles sont nombreuses?
Tout à fait, et là c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les locuteurs,
non, c'est
oui,
pas ça le mot en français.
L'ILM, c'est les intervenants en langue maternelle.
Vous êtes d'origine brésilienne et votre portugais vous revient.
Voilà, non, c'était les termes parce que en fait, je pensais au médiateur bilingue au départ. C'était comme il s'appelait et aujourd'hui il s'appelle intervenant en langue maternelle. Donc, ce sont des locuteurs qui vont. Ils ont cette même fonction depuis les années 80. C'est faciliter l'entrée dans le français, donc l'utilisation de la langue maternelle pour une première alphabétisation, mais concomitante au français. Et donc, on va s'appuyer sur ces intervenants qui, initialement, étaient ils avaient des rôles très minimes, pas très bien définis, même si dans les papiers, ils étaient bien définis, mais sur place, dans les classes, ils avaient des rôles un peu mineurs. Aujourd'hui, ils ont un statut à part entière, et donc ils conçoivent et essayent de concevoir des pratiques pédagogiques et didactiques dans les langues maternelles, mais pour l'instant, la majorité est cantonnée à l'école maternelle.
Il y a aussi un CAPES en créole guyanais, seule langue reconnue comme régionale depuis les années 80 et qui sert beaucoup aussi à communiquer avec les enfants des populations amérindiennes quand ils arrivent les premières années à l'école.
L'école en Guyane, dans les populations amérindiennes, c'est un échec cuisant. Je donnais des cours à l'université. Les jeunes amérindiens qui arrivent jusqu'à l'université, mais il faut leur mettre une médaille. Parce qu'ils n'ont pas bouffé à tous les repas. Ils ont été ostracisés par leurs camarades. Je l'ai vu dans mes propres cours. Comment la Kalinia que j'avais en LE1, elle était au bout d'un bureau et tous les autres étaient de l'autre côté. Alors, soit par choix personnel, c'est peut-être possible, mais aussi parce que ce sont des mondes cloisonnés. Il semble qu'il y a des frontières qui soient impénétrables. Et je pense que c'est notre faute.
Elle s'appelle Marianne Pradem, elle est anthropologue et professeure d'université. Elle a longtemps travaillé à Saint-Laurent-du-Maroni au collège. C'est un extrait d'un grand reportage de RFI. Avoir le bac pour aller à l'université, cette dame rappelle que les Amérindiens à l'université sont quand même assez nombreux et très méritants. Patrick Blancodini, combien d'élèves accueille l'université de Guyane et avec quelle filière ?
Alors, l'université de Guyane, elle est récente, hein, elle date de 2014. Elle accueille, il y a différents campus, le principal se trouve à Cayenne. Elle accueille désormais près de 5000 étudiants. Alors, il y a des filières en sciences sociales, en lettres, en droit. Il y a un IUT qui est ancien, qui est un héritage de la période qui précédait le développement de l'université, un IUT qui se trouve à Kourou. Et puis surtout, ce qui est important, ça a été dit tout à l'heure par Sylvia Lopez da Silva Macedo, c'est l'INSPE. C'est l'Institut National Supérieur du Professorat et d'Éducation. Alors ça, c'est un espoir, en fait, pour la formation des maîtres dans le département. Donc il y a une réforme en cours là des CAPES qui pourra peut-être permettre d'augmenter le vivier en déplaçant le concours un peu plus tôt, hein, le concours théorique. Cette université, c'est un petit peu l'espoir en fait de la Guyane. Hein.
L'université qui est l'espoir de la Guyane où beaucoup sont scolarisés parmi ceux qui ont pu le plus avoir déjà accès à l'éducation à un âge correct et qui ont pu suivre les cours et qui ont pu financer pour ceux qui sont allés dans des écoles privées un enseignement où des professeurs étaient là. Voilà, donc il y a plein d'enjeux, on entend bien à la fois démographique, économique, politique et démographique ce n'est pas des moindres, hein. Il faut apporter une réponse éducative à des enfants de plus en plus nombreux. Entre 2016 et 2022, l'INSEE chiffre à plus 7% l'augmentation de la population totale en Guyane, alors que dans l'Hexagone, cette augmentation était de 2%. En 2019, la Guyane comptait 169 établissements publics du premier degré, 44 du second degré, et on essaye de continuer à faire sortir de terre des établissements pour accueillir tout le monde. Dans cette augmentation générale d'enfants, Sylvia Macedo, quelle part concerne des enfants nouvellement arrivés en Guyane avec des parents qui viennent y tenter leur chance, car la hausse totale de la démographie, elle s'explique aussi par la forte immigration dans les écoles aussi.
Oui, tout à fait. Donc il y a une part importante d'enfants nouvellement arrivés dans les territoires, dont les enjeux aussi d'être ou pas légal à le territoire va permettre l'accès à l'escolarité, parce que même si les lois garantissent l'escolarisation de tous les enfants, même nouvellement arrivés sur le territoire, les procédures vont parfois, soit les procédures dématérialisées, soit des ajouts pas nécessairement légaux, mais documents qui vont être demandés vont impossibiliter l'inscription de ces enfants. Et donc, une population qui, on estime qu'il y a 40%, il y a une migration de 40% de la population en Guyane, mais dont les chiffres ne sont pas jamais très précis, parce qu'il y a une partie illégale qui circule dans la région. Donc, l'escolarisation de ces publics-là est un enjeu très fort.
Voilà, dans le rapport pour l'UNESCO, vous décrivez les multiples formes que prennent les inégalités d'accès à l'école qui touchent plus spécifiquement les adolescents et les enfants de familles allophones et nouvellement installés, des inscriptions sur liste d'attente, des refus de la part de l'agent au guichet de remettre un dossier d'inscription scolaire à certaines familles, le recours à des vigiles privés qui font office de premier filtre, car c'est aussi un service public, l'accueil des personnes qui demandent l'asile et qui, pour certaines, voudraient scolariser leurs enfants, et c'est aussi un service public en souffrance. On en parle juste après ce chanteur guyanais, Jaa Yan.
You come out the Jaa Yan, I pox at all the party. Paga de mola, Jaa Yan, I pate, j'ai pati. Je la moque, mette son à terre, quand si a déclati.
Nous pas d'être, nous pas d'être, nous rafait. Gardez comme y'en a un seul mon rabat, sauf à y'en tête. Pignon, mal aussi, réglage mobilette.
J'entends la musique en drogue pour moi à la fête. 5-5, Cayenne, Kourou, Kétorette. Tout mon ghetto, you, d'un bout de chemerette. Pas jouer les boucs, fou, paille, paille, pète tête. Mommy, tell me, money, a fait mec. Ok, beaucoup de topé, pas 10. Passe-moi vive, des bêtes, beaucoup pas j'en vive. Premier son système, on fait Big G. L'époque d'abas, t'es cassé, mais full mix. On est Keyshan, l'époque bar de Chris. Comme y'a mineur, mode là, j'te gagne les soapies. Dis on Chicago, moi j'ai rice and peace. Comme y'a freestyle, topé, moi des Crips mix. Nous pas d'être, nous pas d'être, nous rafait. Y'a des camionnettes, seulement rabat, sauf à y'a tête. Pignon, mal aussi, réglage mobilette. J'entends la musique en drogue, pour moi à la fête. Solo, ma tour est mieux qu'est au rec. Tout mon ghetto you, d'un bout de chemerette. Pas jouer les boucs, fou, paille, paille, pète tête. Mommy tell me, money a fait mec. Si faut ma rawine, y'a rawine, olé yo tête. Si faut ma rawine, y'a rawine, olé.
Le chanteur Dja Ayane, qui est originaire de Makuria, en Guyane, c'est proche de Kourou, du centre spatial de Kourou. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur la fracture entre Paris et les Outre-mer, aujourd'hui en Guyane, des services publics en souffrance. Nous avons parlé beaucoup de la population guyanaise, les demandeurs d'asile aussi ont vu l'État se désinvestir.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
On dort par terre sur des tapis de sol de 2 cm. Les toilettes sont sales, on a une coupure d'électricité pendant 3 jours. Beaucoup ont été piqués par des insectes un peu partout, on a peur des maladies. Il y a seulement une douche pour 80 personnes, c'est dur pour l'hygiène.
Cet homme est originaire de Syrie. Il vivait dans un hébergement d'urgence saturé à Cayenne quand France 24 l'a rencontré en 2023. Hébergement d'urgence car il n'y a pas de centre d'accueil des demandeurs d'asile en Guyane. C'est l'un des seuls territoires français à n'en pas disposer. L'absence de ce service public, car c'en est un, est à comprendre dans un contexte plus large de politique migratoire qui érige la Guyane en terre de non-accueil. Bonjour Félix Flo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorant à l'EHESS. Vous avez écrit La Guyane française, nouvelle terre d'accueil, les effets fait d'un droit d'asile singulier sur la reconfiguration des routes de l'exil, article paru récemment dans la revue européenne des migrations internationales. Alors d'abord, en l'absence de CADA, qui s'occupe d'assurer une forme d'accueil aux personnes qui arrivent en Guyane depuis le Brésil, par exemple, pour y demander l'asile ou de façon irrégulière?
Alors les premiers, disons, qui se chargent de l'accueil des ressortissants brésiliens ou haïtiens sont ceux de leur propre diaspora, qui sont bien souvent relégués dans les quartiers précaires d'habitat informel, qui sont des réelles villes dans la ville, la plupart d'entre eux étant largement illégalisés par un droit d'exception. Et je pense que voilà, on pourrait dire que c'est eux d'abord qui prennent en charge l'arrivée de nouvelles personnes en migration.
Ça, c'est pour ceux qui viennent de pas très loin, mais ça marche pas pour les Syriens, les Afghans par exemple, qui ont été nombreux avant, en ce qui concerne les Syriens, avant la chute de Bachar al-Assad, à rejoindre la Guyane.
Voilà. Concernant les nouvelles routes migratoires qui tendent à augmenter depuis 2018, donc on constate l'arrivée de Syriens, de personnes afghanes notamment, qui sont arrivées, qui se sont retrouvées pour la plupart d'entre elles en situation de rue à leur arrivée, parce qu'il y a très peu de dispositifs d'hébergement en Guyane. C'est principalement des dispositifs d'urgence qui sont largement sous-dotés. Et dans ce cadre-là, il y a eu des campements d'exilés syriens et afghans qui se sont montés en centre-ville, mais il y a eu une large politique d'expulsion de ces personnes migrantes en centre-ville qui ont été, pour une part, relogées dans un espèce de camp bidonville géré par l'État, qui est le camp de la Verdure.
Le camp de la Verdure, donc à Cayenne, plus de 350 personnes qui vivent dans des abris construits avec des palettes recyclées pour la plupart, avec des conditions sanitaires aussi dénoncées comme insalubres, malgré la mise en place d'une permanence d'accès aux soins par l'Agence régionale de santé. Et d'ailleurs, les demandeurs d'asile qui sont dans ce camp de la Verdure, souvent dans les entretiens, expriment aussi une reconnaissance envers l'État français et les associations qui les accueillent. Ce sont surtout elles, les associations, sur lesquelles s'appuie aussi l'État français. Pour beaucoup, il y a une forme de délégation aux associations d'une politique d'accueil.
Oui, donc il y a des associations présentes qui les accompagnent. Il y a la CIMAD, Médecins du Monde ou le COMED, mais qui font face à eux, qui font face à un manque structurel criant de moyens en matière d'accueil, et qui d'ailleurs contestent les politiques d'État en matière migratoire. Ça a été le cas de la CIMAD, du Comité des médecins du monde, hein, qui ont fait un recours devant le Conseil d'État face à cette institutionnalisation du camp bidonville de La Verdure pour demander l'amélioration des conditions de vie des personnes demandeuses d'asile qui y logent, et un relogement aussi dans des centres d'hébergement, l'ouverture aussi du bâtiment sur ce site du camp de La Verdure. Il y a un bâtiment en dur qui n'est pas ouvert aux personnes qui dorment sous bâche, et le Conseil d'État a débouté l'association en considérant que ces conditions d'hébergement largement précarisées ne portaient pas atteinte au droit d'asile et au droit à l'hébergement des personnes qui ont demandé.
Ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile ou à leur droit d'hébergement à l'hébergement d'urgence, et disait aussi dans son avis que les pouvoirs, ou son arrêt, que les pouvoirs publics faisaient ce qu'ils peuvent au regard de leurs faibles moyens. Ce sont les mots qui ont été employés par le Conseil d'État. On évoquait mercredi au sujet de Mayotte les politiques dérogatoires mises en place spécifiquement pour ce territoire français débordé par l'immigration en provenance des Comores ou de Madagascar, avec un droit du sol soumis à des conditions beaucoup plus drastiques qu'en métropole, selon une décision qui a d'ailleurs nécessité une révision constitutionnelle, des délais beaucoup plus courts pour déposer une demande d'asile et beaucoup d'autres exceptions. À quelles exceptions est soumise la Guyane cette fois ?
Alors oui, il y a une série de... Il y a tout un arsenal juridique anti-immigrants qui est déployé en Guyane depuis les années 80. Et donc, notamment en matière d'asile, il y a un décret asile qui a été édifié en 2018 et qui a ensuite été exporté à Mayotte en 2022. Donc c'est un décret qui participe largement à illégaliser les personnes demandeuses d'asile sur le territoire guyanais, en accélérant l'ensemble du traitement de la procédure d'asile, du dépôt du dossier devant l'OFPRA jusqu'au recours CNDA.
L'OFPRA qui n'a plus que 15 jours pour traiter les demandes contre 6 mois dans l'Hexagone. Est-ce qu'il y a suffisamment d'agents pour soutenir la cadence, puisqu'on parle service public et administration plutôt?
Quand il y a eu l'instauration du décret asile, donc qui augmentait, enfin qui resserrait tous les délais de la procédure, il y a eu aussi un resserrement, comme vous le disiez, délai de traitement par les agents de l'OFPRA des dossiers OFPRA déposés par les demandeurs d'asile, et ça avait provoqué une grève des agents de l'OFPRA de l'antenne de Cayenne. Il y a une antenne OFPRA qui s'est créée en 2017 dans la foulée du décret. Les travailleurs de l'OFPRA qui dénonçaient des cadences, des rythmes de travail imposés qui ne permettaient pas de traiter comme il le faudrait les demandes d'asile déposées. Mais à l'heure actuelle, le décret et ses délais sont toujours à l'œuvre, à côté d'une série d'autres dispositifs d'exception, comme des barrages permanents qui font office de véritables checkpoints sur les deux routes nationales de Guyane, qui sont maintenant des barrages mobiles. Sur l'une des deux routes, il y a aussi le recours non suspensif face aux mesures d'éloignement, donc c'est un euphémisme de l'administration pour désigner l'expulsion des migrants illégalisés. Donc un recours non suspensif, ça veut dire que les personnes qui font l'objet d'une OQTF, lorsqu'elles déposent le recours, le recours ne suspend pas la mesure d'expulsion, et donc ça permet d'évincer un contrôle juridictionnel des OQTF, et c'est ce qui permet notamment à l'État français en Guyane d'atteindre des chiffres records en matière d'expulsion et de rapidité des expulsions.
La location pour demandeurs d'asile aussi, c'est encore une exception guyanaise, puisqu'elle est fixée à 3,80 €. C'est 3 euros de moins que dans l'Hexagone. On pourrait se dire c'est parce qu'en Guyane la vie est moins chère, mais pas du tout.
Oui,
on l'a d'ailleurs bien expliqué hier.
Oui, comme dans l'émission d'hier sur les Antilles, il y a aussi la vie chère en Guyane, avec les mêmes facteurs qu'on peut interroger, hein, notamment le monopole de Grand Brook, etc. Et dans ce cadre-là, oui, on aurait pu penser que l'allocation pour demandeurs d'asile, qui est en fait une contrepartie donnée aux demandeurs d'asile du fait qu'ils ont l'interdiction de travailler pendant les premiers mois de la demande d'asile, cette allocation pour demandeurs d'asile, elle est quasiment deux fois moins élevée en Guyane que dans l'Hexagone, ce qui participe encore davantage à la précarisation des personnes en migration.
En attendant, Félix Flo, les demandes d'asile ont triplé en 2024. 20 000 personnes reçues l'année dernière au SPADA, qui est le service de premier accueil des demandeurs d'asile à Cayenne, avec des délais d'attente qui ont explosé, des rendez-vous en ce moment fixés pour fin 2026. En gros, deux ans d'attente parfois. Avant cette loi 2018 qui donc instauré un droit d'asile particulier en Guyane. Est-ce qu'il est arrivé que l'État français se mette dans l'illégalité et oblige les demandeurs d'asile à saisir le tribunal administratif? Alors c'est une question rhétorique puisque la réponse est oui, on le sait, c'était en 2016. Qu'est-ce qui s'était passé?
Ah oui, en 2016, il y a eu des mesures qui annonçaient le durcissement du droit d'asile à venir avec le décret. Et en 2016, il y a notamment eu la fermeture des portes du guichet unique pour demandeurs d'asile durant 3 mois, donc qui faisait que les demandeurs d'asile ne pouvaient tout simplement pas déposer la demande. Porte close. Ce qui s'est passé, c'est que plusieurs demandeurs d'asile ont déposé des recours en urgence devant le tribunal administratif, et la préfecture, qui se sachait dans l'illégalité ou qui craignait une décision défavorable du tribunal, ouvrait les portes du guichet unique quelques heures ou la veille de l'audience devant le tribunal administratif pour échapper à une décision défavorable.
Pour que ces requérants puissent s'enregistrer comme le veut la loi.
Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, actuellement, là-dessus, il y a toujours une grosse problématique par rapport à l'accès au guichet unique. Il y a actuellement environ 11 000 personnes qui ne sont toujours pas enregistrées au GUDA et qui sont dans l'attente d'un rendez-vous, avec des délais donc de 2 ans entre le passage à la SPADA et au GUDA.
Une dernière question, Félix Flo. Comment les élus locaux s'emparent de cette question? Est-ce que certains essaient de pallier les manques, notamment d'hébergement? Est-ce qu'ils interpellent l'État? Comment se sent-il concerné par cette question?
Alors je dirais que la tendance est plutôt à une interpellation de l'État vers le durcissement des politiques migratoires en Guyane. Et un exemple assez flagrant de cela, c'est la grève de la faim de Sandra Trochimara, la maire de Cayenne, en 2022, lors de phénomènes de campements d'exilés syriens, notamment en centre-ville de Cayenne. Et elle avait fait une grève de la faim pour accélérer l'expulsion de ces demandeurs et demandeuses d'asile et pour ensuite les reléguer au camp bidonville de la Verdure géré par l'État.
Une grève illimitée d'un jour pour dénoncer, disait-elle officiellement, les conditions de vie des migrants et demander à l'État d'assumer ses responsabilités. Là, le préfet de Guyane, qui était alors Thierry Kefelec, avait dit « je suis surpris parce qu'elle a demandé le concours de la force publique pour expulser les personnes et elle dit faire une grève de la faim pour soutenir les migrants ». Merci beaucoup Félix Flo d'avoir été avec nous. Votre thèse porte sur la gouvernance coloniale post-1946 en Guyane au prisme des politiques migratoires. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Une réaction à Sylvain Macedo. La question à la fois de ces enfants qui arrivent, pour certains, pour beaucoup d'Haïti. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent d'Haïti, surtout depuis la crise sécuritaire, et à qui d'ailleurs on accorde l'asile très majoritairement, mais aussi des enfants qui viennent d'autres pays du globe. C'est la même question qui se pose que pour les populations halogènes, autochtones dont vous nous parliez tout à l'heure.
Dans le sens de la scolarisation.
Oui, bien sûr, de la scolarisation, dans les écoles.
La question de l'amérindienne, les populations amérindiennes et noir-marron aussi, les Nyangués, ils sont en bonne partie des citoyens français. Donc la question se pose autrement. Après, les enjeux
pour l'accueil et la langue.
Pour l'inscription dans les écoles, pour les droits, l'accès aux droits. Cela étant, les enjeux de formation et de l'éducation, la qualité en particulier de l'éducation, sont similaires.
Et le décrochage, la maison des adolescents à Cayenne dit par exemple que 80% des enfants qu'elle accueille la journée quand les enfants ne sont pas à l'école parce qu'ils en sont partis, ce sont des enfants haïtiens. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Sylvia Macedo. Je rappelle le rapport pour l'UNICEF sur le droit à l'éducation en Guyane que vous avez co-rédigé et que nous mettons en ligne sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup Patrick Blancodini, professeur de géopolitique en classe préparatoire à Lyon. On peut lire nombre de vos articles dans la revue Géoconfluence. Et merci encore Félix Flo d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et Israël accélère ses plans pour cantonner les Gazaouis autour de centres d'aide humanitaire, Catherine.
Des chantiers de construction apparaissent dans l'enclave palestinienne, révèle la BBC. Sur des images satellites, on peut voir des terres déjà défrichées, avec des bulldozers à l'œuvre aussi ces dernières semaines, pour finir de détruire les immeubles ou les champs après d'intenses bombardements. Sur les ruines à Gaza apparaissent désormais des terrassements, des installations qui semblent avoir été conçues avec des entrées et des sorties séparées pour des camions et des piétons. Au moins 4 centres seront construits dans la partie sud de Gaza, affirme la BBC, et un autre plus au nord, près du corridor de Netzarim, une bande de terre contrôlée par l'armée israélienne qui divise la bande de Gaza. Ce plan, critiqué par l'ONU notamment, implique que des entreprises privées transportent l'aide humanitaire vers un nombre limité de sites de distribution jugés sécurisés par Israël, qui pourraient aussi vérifier l'identité des bénéficiaires, précise Haaretz. Le quotidien israélien et le Washington Post annoncent également qu'une ONG créée de toutes pièces et soutenue par les États-Unis, la Gaza Humanitarian Foundation, veut commencer à distribuer de l'aide dans la bande de Gaza d'ici la fin du mois. Elle avait d'ailleurs été enregistrée à Genève dès le début de l'année, note le journal suisse Le Temps, ce qui fait craindre un scénario d'enlisement comparable à l'Irak et le pire surtout pour les Gazaouis. Aucune aide humanitaire n'est entrée dans l'enclave palestinienne depuis le mois de mars, rappelle le Guardian. La bande de Gaza, confrontée à un risque critique de famine, alerte l'ONU, des ONG et la BBC, qui montrent dans un reportage télévisé des corps squelettiques d'enfants pour mieux faire comprendre l'urgence de la situation. Il y a quelques jours, nous avons fait un reportage sur cette petite fille de 5 mois, Siwar Ashura, raconte le journaliste de la BBC. L'un de ses collègues à Gaza est retourné la voir aujourd'hui. Son système immunitaire est en train de céder face à une infection de peau. Ses pleurs sont un cri pour tous les enfants qui sont morts, dont les vies ont été brisées à Gaza, explique le journaliste de la BBC. 70 000 enfants sont aujourd'hui hospitalisés pour malnutrition à Gaza. Des enfants qui meurent sous les yeux de leurs parents, sous les yeux du monde entier, dénonce le média israélo-palestinien Plus 972. Ce que confirme le journal suisse Le Temps qui titre « Sur Gaza, un cimetière pour enfants bombardés et affamés ».
Dans la suite de votre revue de presse internationale, Catherine, vous avez repéré des articles qui parlent à New York d'une psychologue qui accompagne des familles traumatisées par leur expérience de la migration.
Des mères victimes d'extorsions ou de violences sexuelles sur les routes de l'exil depuis leur pays d'origine en Amérique latine jusqu'aux États-Unis. La psychologue Lorena Kouroussias cherche à guérir leur traumatisme, titre El País America, avec son organisation Mixteca située dans le quartier de Brooklyn. Lorena a elle-même expérimenté la vulnérabilité des migrants après avoir quitté le Mexique pour des questions de sécurité, alors qu'elle accompagnait des femmes victimes de violences sexuelles à son arrivée aux États-Unis. Lorena Kouroussias n'a trouvé que des petits boulots, notamment en faisant le ménage pour une famille qui habitait dans un manoir. Elle, Lorena, vivait au sous-sol, sans savoir comment en sortir, raconte El País America. 15 ans plus tard, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir pour cette psychologue souriante de 54 ans aujourd'hui. Lorena aide notamment les mères célibataires immigrées à New York. Des thérapies classiques ou alternatives leur sont proposées, parfois moins intimidantes pour des communautés qui hésitent à parler. Recours à un chaman, au Palo Santo, des bâtons de bois sacré qui permettraient de se purifier des mauvais esprits. Ces éléments culturels, en tout cas, créent des espaces où l'identité des immigrés d'Amérique latine peut résonner avec leur santé mentale aux États-Unis, précise El País America.
Et ce soutien émotionnel est particulièrement important en ce moment.
Car les femmes qui frappent à la porte de l'organisation Mixteca se trouvent dans une situation très difficile. Elles doivent continuer à travailler pour subvenir aux besoins de leurs enfants, mais elles risquent l'expulsion à chaque coin de rue, souligne El País. Un garçon de 12 ans a par exemple été abandonné seul sur un trottoir de la ville de Waltham, sur la côte Est, raconte NBC Boston et CBS News, et ce, après une descente des services de l'immigration à qui Donald Trump a demandé d'expulser 1 million de personnes par an. Même ceux qui suivent la procédure légale pour rester aux États-Unis risquent d'être arrêtés à tout moment, alerte Colorado Public Radio, qui cite le cas de 2 Mauritaniens détenus aujourd'hui, alors qu'ils demandent l'asile après avoir été réduits en esclavage dans leur pays. Par ailleurs, 3 enfants citoyens américains, dont un atteint d'un cancer, ont été expulsés malgré tout avec leur mère vers le Honduras, rapporte CNN. Climat fasciste, dénonce des universitaires de Yale. L'historien mondialement connu Timothy Snyder, l'historienne Marcy Shore ainsi que le philosophe Jason Stanley annoncent au New York Times qu'ils quittent les États-Unis pour le Canada et l'université de Toronto où ils comptent bien poursuivre leurs travaux universitaires mais aussi la résistance intellectuelle et politique face à l'administration Trump.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain, dans Culture Monde, comme chaque vendredi, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités, avec d'abord un retour d'Ukraine à Zaporijja et à Kiev sous la menace des drones, avec Véronica Dormand de Libération, suivie d'une table ronde consacrée à la Turquie. Est-on dans un moment Erdogan, avec Ahmet Insel et Jean Marcoux. Dans un instant, les midis de culture.